Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, bienvenue dans cette émission qui revient sur 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction. Une semaine d'actualité. Après le flash, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages. Dans ce numéro d'une semaine d'actualité, nous partirons par exemple pour Bagdad, Dhaka, Kigali. Avec une escale aussi à Marseille après la victoire de l'équipe de France de football dans l'Euro. Victoire face à l'Allemagne qui lui a ouvert les portes de la finale demain contre le Portugal. Notre invité aujourd'hui fait partie du club, en quelque sorte des amis d'une semaine d'actualité. Il s'appelle Sedi Kaba. Bonjour Sedi Kaba.
Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au site Monde Afrique et lemondeafrique.fr, c'est ça?
C'est tout à fait exact, je suis au mondeafrique.com. Dirigé par Nicolas Beau et j'ai une chronique hebdomadaire sur lemonde.fr, le site Afrique du Monde, une chronique qui paraît tous les jeudis, souvent en début d'après-midi, souvent en fin d'après-midi, ça dépend.
Une semaine d'actualité, une émission évidemment à podcaster.
www.rfi.fr.
Et puisque le Canard Enchaîné a sorti cette semaine un numéro spécial pour son centenaire, je vous rappelle que chaque vendredi désormais, nous retrouvons un de ses anciens rédacteurs en chef, Claude Angéli, qui nous parle chaque vendredi, donc pendant l'été, à 14h10, temps universel, 16h10, heure de Paris, de ses grandes enquêtes dans une émission que j'ai le plaisir de vous présenter, préparée par Vanessa Rovensky. Elle s'intitule « Les plaisirs du journalisme ». Cela a commencé hier, vendredi prochain, pour le deuxième numéro des huit numéros. Au total, nous parlerons des micros du canard quand l'Élysée a voulu espionner l'hebdomadaire. C'était en 1973. Là aussi, vous pouvez retrouver l'émission sur le site de RFI à la page Les plaisirs du journalisme. J'imagine que vous, Cédric, journaliste, pour vous, le canard est important.
Non, je vais d'abord commencer par vous féliciter de cette initiative. Il n'y a pas mieux que le canard pour parler du journalisme. Le canard n'est pas un journal, c'est une institution pour notre profession.
Même si le journal n'aime pas donner des leçons.
Mais, bien sûr, c'est par modestie sans doute, mais le canard est devenu une institution. Il n'y a qu'à voir la signification particulière que la journée du mercredi a, la date de parution du canard, et même le mardi après-midi, puisque dans certaines rédactions, dans certaines institutions, le canard est distribué dès le mardi après-midi, et c'est souvent avec la peur au ventre que les politiques guettent ce que le canard va sortir et que
qu'est-ce
la profession...
Qu'est-ce qu'on dit de moi ?
Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Ce que j'adore chez le canard, c'est cette rigueur professionnelle avec laquelle le canard travaille. Le canard a souvent gagné, 4 fois sur 5, le canard a gagné ses procès parce qu'il y a une rigueur dans la recherche de l'information. Et jamais, au grand jamais, le canard ne met en cause une personne sans avoir sollicité. Souvent, le canard gagne ce procès au bénéfice de la qualité de l'enquête, au bénéfice de la bonne foi, parce qu'il n'a plus le temps de sortir. Et c'est une grande école du journalisme. Au-delà du journal, comme je l'ai dit, c'est une institution aujourd'hui centenaire et qui est appelée à former des gens.
Et qui vit sans publicité.
Absolument. Et ça, c'est ce qui fait tout le charme, toute la qualité de ce journal qui n'accepte pas de la publicité et dont le prix n'a pas évolué. La plupart des journaux que nous achetons ont augmenté le prix depuis que moi j'achète le canard, en tout cas depuis que je suis sur le sol français. Le canard s'est toujours vendu à 1,20€. Il n'y a pas eu besoin d'augmentation parce que par la qualité du travail journalistique, le canard a un taux de vente assez élevé qui lui permet de se passer de la publicité et qui garantit son indépendance vis-à-vis des annonceurs et vis-à-vis de n'importe quelle institution.
Ah, vous êtes bien parti, Cédric, pour écouter l'émission chaque vendredi, le plaisir de journalisme avec Claude Angéli. Hein.
Absolument, je fais le serment de ne rater aucune émission parce que moi je suis un fidèle lecteur du Canard Enchaîné, c'est une école pour moi.
Alors partons maintenant, Cédric Kaba, pour les États-Unis. Des tireurs isolés ont semé la panique à Dallas pendant une manifestation antiraciste, tuant 5 policiers. Ça s'est passé jeudi soir. Quelques heures plus tôt, 2 Afro-Américains avaient été tués par la police. On y revient ce matin, donc, correspondante Anne-Marie Capomaccio.
Les tirs ont éclaté hier soir en heure locale autour de 21h. Des manifestants protestaient dans le centre de Dallas contre la violence policière après les décès de 2 hommes noirs tués par des policiers à bout portant en Louisiane et dans le Minnesota. 2 tireurs au moins, d'après les informations de la presse américaine, se sont placés sur des toits au-dessus du défilé et ils ont ouvert le feu sur les policiers qui encadraient la manifestation. 11 policiers ont été touchés, 4 sont morts de leurs blessures. Jamais depuis le début des manifestations contre la violence policière et les émeutes raciales qui ont traversé les États-Unis l'an dernier, jamais un événement pareil ne s'était produit. Les officiers ont été délibérément ciblés, comme dans un mauvais scénario d'exécution, a déclaré l'un des responsables de la police. Ce responsable à Dallas explique par ailleurs que l'identification des suspects est difficile, car au Texas, la loi autorise le port d'armes dans les lieux publics et donc dans une manifestation. Certains des protestataires, on le voit sur les images diffusées par les médias, certains des manifestants sont venus défiler armés de fusils d'assaut en toute légalité.
Destination Londres maintenant, Sadi Kaba, Nigel Farage, le président fondateur démissionnaire du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni et animateur de la campagne en faveur du Brexit, a dit mercredi qu'il regretterait le spectacle de marionnettes du Parlement européen en annonçant lundi donc qu'il démissionnait de son parti afin de récupérer, dit-il, sa vie. Il a donc toutefois précisé qu'il continuerait à siéger au Parlement de Strasbourg. Correspondance de Muriel Delcroix.
Le leader du UKIP a mené une campagne acharnée pendant plus de 20 ans pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Mais celui qui a aussi été trader à la City a souligné que sa vocation première n'était pas de poursuivre une carrière politique et que son combat avait énormément pesé sur sa santé et sa famille. Il a donc conclu qu'après avoir longtemps clamé « Je veux retrouver mon pays », il voulait désormais retrouver sa vie. Ce n'est bien sûr pas la première fois que Nigel Farage annonce avec fracas son départ. Il l'avait fait l'an dernier après avoir échoué lors des élections législatives à se faire élire député à la Chambre des communes, pour en fait revenir quelques semaines plus tard à la tête du UKIP. Malgré tout, cette fois, il semble déterminé à quitter le devant de la scène, ce qui ne veut pas dire qu'il abandonne complètement la vie politique. Nigel Farage reste de toute façon député européen et surtout, il a laissé entendre qu'il suivrait de très près les négociations sur le Brexit entre Londres et Bruxelles, prévenant que le UKIP était actuellement la troisième force politique du pays et gagnerait encore en puissance d'ici les prochaines législatives en 2020.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sadi Kaba, notre ami Sadi Kaba, alors d'abord Dallas, le retour, l'éternel retour de la violence et du racisme aux États-Unis.
Absolument, c'est un problème de fond. Nous avons eu l'occasion d'en parler ici même, à ce micro-là, oui. Sur la persistance de ces crimes commis par la police, les réactions que ça enchaîne, les émeutes qui ont suscité souvent le déploiement de la garde nationale pour y faire face. Donc, il y a un problème de fond, à mon avis. Et il faut que les États-Unis l'abordent et trouvent une solution au lieu de faire un traitement symptomatique. À chaque fois qu'il y a, une éruption d'émotion, feinte ou réelle ici et là, et après, on laisse passer et puis ça ressurgit. Donc, à mon avis, il faut que les États-Unis abordent fondamentalement cette question et essaient de lui trouver une solution, ou sur le plan de la législation, ou sur le plan du contrôle des armes, ou en tout cas, il faut que l'affaire ne soit pas simplement déléguée aux États fédérés. Il faut que l'État fédéral américain, il faut que ce soit la Maison-Blanche, le ministère de la Justice, le Congrès américain, les institutions fédérales qui s'en occupent pour trouver une solution. Et ça, c'est le revers du fédéralisme, où au niveau de chaque État, il y a une législation particulière, les facilités ici, dans cet État, la police a une certaine facilité à utiliser les armes. Là, c'est moins codifié, etc. Donc,
et la liberté de port d'armes pour les Américains,
absolument,
notamment au Texas.
Hein. Voilà, c'est ce qui... La contre-réaction, par exemple, le fait que les manifestants aient pu utiliser des armes, c'est justement cette licence qui permet à n'importe qui d'utiliser des armes. Et on n'est pas loin de ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit gay où un homme, parce qu'il avait la possibilité, il avait la liberté d'aller acquérir une arme, est venu avec une arme d'assaut à tuer une trentaine de personnes. Donc, il y a les Américains, à mon avis, pour moi, ils ne prennent pas avec toute la gravité cette situation, et ça nous amène à ça. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que dans peu de temps, on pourrait encore être amené à reparler de cette affaire, parce que les solutions, on a toujours traité les symptômes au lieu de traiter la maladie elle-même.
La dernière fois, Sadi Kaba, qu'on s'est vu, c'était en avril, donc c'était avant le Brexit. Il s'est passé donc ce bouleversement avec des démissions en cascade. David Cameron, notamment le Premier ministre. Et voici maintenant celle de Nigel Farage. C'est les rats qui désertent le navire, non?
Absolument. Et celle de l'ancien maire de Londres aussi, qui était une des têtes pensantes
Boris
du Brexit,
Johnson,
qui a renoncé à être Premier ministre, alors qu'on lui prêtait cette intention. Il y a une escroquerie politique fondamentale dans cette affaire. Celui qui vient de démissionner avait convaincu les Britanniques que la vie leur serait meilleure en partant de l'Union européenne. Et aujourd'hui, au moment de rester dans le navire, pour voir jusqu'où ça va les amener, sentant que l'amertume est en train de monter dans une partie de la société, responsable d'avoir fracturé le pays entre les pour et les contre. Quand on prend une ville comme Londres qui a voté à 60-70% pour rester dans l'Union européenne.
Et aujourd'hui, Londres et le reste du pays.
Londres et le reste du pays. Donc, étant responsable de cela, moi, sa démission me semble être une sorte de désertion. C'est pas le meilleur moment. On n'abandonne pas le navire alors qu'on ne l'a pas amené à quai, puisqu'il aurait fallu attendre de voir ce que le Brexit va donner avant de partir. Donc, tout ce beau monde a construit le Brexit sur une escroquerie en disant aux Britanniques, si vous sortez, la vie sera meilleure premièrement. Deuxièmement, si vous sortez, les migrants ne pourront pas venir parce qu'il y a ce chiffon rouge de l'arrivée des migrants qui a été agité pour convaincre les gens, notamment dans les campagnes. Et tout cela va amener les Britanniques peut-être à regretter un jour ce départ de l'Union européenne.
Nous allons devoir parler attentat maintenant, Sedi Kaba. Le Bangladesh a respecté dimanche et lundi un deuil national après le massacre la veille dans un restaurant de 20 otages, dont 18 étrangers. Le gouvernement assure que les djihadistes appartiennent à un groupe local et non à l'organisation de l'État islamique. En tout cas, l'enquête avance. Carlota Morteo.
5 jeunes hommes, souriants, armes à la main, vêtus d'une tunique noire et coiffés d'un turban rouge et blanc. Ces photos des assaillants ont été diffusées par l'agence de presse du groupe État islamique. Âgés de moins de 30 ans, ces Bangladais étaient issus de milieux privilégiés et avaient étudié dans des écoles prestigieuses. Le père de l'un d'entre eux était même un homme politique du parti au pouvoir. Le 6e assaillant, tué lors de l'assaut, était issu d'un milieu plus pauvre et avait étudié dans une école coranique, tout comme un 7e suspect qui a, lui, été arrêté. En interrogeant les familles des preneurs d'otages, il apparaît que tous fréquentaient des sites internet djihadistes et que 3 d'entre eux s'étaient volatilisés depuis plusieurs mois. La police a donc lancé un appel pour que tous les Bangladais signalent la disparition de leurs proches. Même si l'État islamique a revendiqué l'attentat pour les autorités, c'est le groupe bangladais Jamaatul Mujahideen, interdit depuis 10 ans dans le pays, qui serait à la manœuvre. Et le Premier ministre Assadou Zamkan persiste à dire qu'il n'y a pas de connexion entre le groupe et l'Irak ou la Syrie. Le groupe islamiste Jamaatul Mujahideen a toutefois le même objectif que l'EI, instaurer un califat au Bangladesh.
Revenons maintenant sur l'explosion très meurtrière qui a visé samedi un centre commercial de Bagdad. Un camion piégé a explosé. Cette explosion a fait plus de 200 victimes. Correspondance mercredi d'Angélique Ferrand.
Dans le quartier de Karada, on cherche encore des corps dans les débris du centre commercial complètement carbonisé. 80 corps sont si brûlés qu'il faudra des tests ADN pour les identifier. Depuis dimanche, les Irakiens posent cette question. Comment peut-on encore amener une telle quantité d'explosifs dans Bagdad? Pour calmer le jeu, le Premier ministre Al-Abadi a annoncé l'achat de camions scanners pour vérifier les véhicules aux portes de la capitale. Il a aussi annoncé le retrait des fameux faux détecteurs manuels d'explosifs. Depuis 2011, on sait qu'ils ne fonctionnent pas, mais ils étaient toujours utilisés. Sur les réseaux sociaux, une question récurrente, jusqu'à quand cette violence va durer, et quelques-uns accusent. La lutte contre l'organisation de l'État islamique n'est que militaire et sécuritaire. Il n'y a eu aucun travail de réconciliation avec la communauté sunnite. Elle est aujourd'hui accusée d'avoir collectivement soutenu l'EI. Elle est collectivement punie. Dans les régions libérées par les forces irakiennes, les exécutions sommaires et la destruction quasi systématique des maisons ou des biens sunnites creusent encore un peu plus le fossé entre les autorités de Bagdad et cette communauté.
Retournons à Londres où mercredi, Sedi Kaba, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair a présenté ses excuses pour les erreurs liées à l'intervention en Irak en 2003, relevées dans un rapport. Mais il a défendu cette guerre qui a selon lui rendu le monde plus sûr. Invasion prématurée, sans exploiter jusqu'au bout les options diplomatiques. Plan britannique pour l'après-guerre complètement inadéquate. John Chilcott, le président de la commission sur l'engagement du Royaume-Uni en Irak aux côtés des États-Unis, a pourtant dressé un bilan accablant de son action. Rejoignons Muriel Delcroix.
C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Je l'ai prise de bonne foi et j'en accepte l'entière responsabilité. J'éprouve plus de peine, de regrets et d'excuses que les gens ne sauraient l'imaginer. La voix altérée par l'émotion, c'est avec ses aveux que Tony Blair a débuté une conférence de presse fleuve qui, au fil de deux longues heures, s'est muée en réquisitoire de la part de la presse et justification acharnée de la part de l'ancien dirigeant. Car s'il regrette le sang versé, Tony Blair ne regrette pas d'avoir envahi l'Irak et déposé Saddam Hussein et continue à penser que le monde se porte mieux sans lui aujourd'hui. Une position qui n'a jamais vacillé et qui décuple la colère des familles des soldats tués en Irak, dont certaines envisagent de s'appuyer sur les conclusions accablantes du rapport Chilcot pour lancer des poursuites contre Tony Blair. Pour sa part, le leader travailliste pacifiste Jeremy Corbyn a estimé que l'intervention en Irak avait été une catastrophe qui a conduit à briser la confiance dans la politique et les institutions. L'actuel Premier ministre démissionnaire David Cameron, qui avait voté en faveur de l'invasion, s'est lui en revanche montré plus prudent, rappelant que le rapport n'accusait pas Tony Blair d'avoir sciemment trompé les Britanniques. Un débat de deux jours consacré à un sujet encore extrêmement sensible dans le pays sera organisé la semaine prochaine à la Chambre des communes.
Suite d'une semaine d'actualité, alors là c'est dit qu'on a ouvert et refermé une rubrique attentats, hélas hebdomadaire et quotidienne aussi.
Absolument.
Ce qui nous concerne, ce qui concerne les journaux de RFI, et l'Irak est au cœur de cette vague de terrorisme.
Absolument, tout est, on peut schématiser en disant que quasiment tout est parti de l'Irak, puisque avec l'invasion de l'Irak sur une fausse base, on a parlé de la Grande-Bretagne, on aurait pu parler aussi des États-Unis, où on a vendu aux gens l'idée que Saddam Hussein décernait des ordres de destruction massive. On se souvient tous de cette démonstration devant les Nations Unies de Colin Powell, secrétaire d'État, présentant des schémas en disant voilà où sont localisées des armes de destruction massive qu'on n'a jamais retrouvées. Ouais. Donc tout a été monté sur cette fausse base, et à partir du moment où l'Irak s'est totalement désintégré, ça a créé l'État islamique, ça a créé les groupes terroristes que l'on connaît aujourd'hui, et le terrorisme s'est diffusé dans le monde, c'est devenu aujourd'hui une métastase. On parle de Daraa, on parle de Bagdad, on aurait pu parler de Bosso au Niger, de Paris, etc. Donc la menace est devenue aussi aujourd'hui planétaire, et ce mal qui est parti de l'Irak aujourd'hui, on peine à lui trouver une solution, parce que nous sommes dans une guerre asymétrique avec des ennemis qu'on ne connaît pas, qui peuvent frapper dans un restaurant comme à Daraa, qui peuvent amener des voitures piégées devant des ambassades, qui ont même essayé de frapper l'Arabie Saoudite à côté de la Mecque, comme quoi il y a une convocation de l'islam et de la religion sous forme d'instrumentalisation, alors que ces gens n'ont absolument rien à voir avec la religion. Quelqu'un qui peut faire un attentat à la Mecque, qui peut rentrer dans une mosquée à Kano au Nigeria pour tuer des musulmans qui sont en train de prier, n'a rien à voir avec l'islam. Mais malheureusement, tout cela est parti du Moyen-Orient avec ce qui s'est passé en Irak, dont la responsabilité incombe aujourd'hui à M. Tony Blair et aussi aux États-Unis de Bush, qui ont, avec Bush et son secrétaire d'État à la défense de l'époque, qui ont cette lourde responsabilité de nous avoir créé ce chaos.
Certains disent d'ailleurs, Sadi Kaba, que Tony Blair devrait comparaître devant la Cour pénale internationale.
En tout cas, des crimes de guerre ont été commis. Ouais. Et comme vous savez, la Cour pénale internationale joue sa crédibilité aussi dans cette affaire.
Alors, critiquée, gens... il faut le rappeler, parce qu'on estime qu'elle ne juge que des Africains.
Absolument. Ouais. Et ça, si la Cour hésite à se saisir d'un dossier comme celui-là, ça va conforter justement ce qu'il a dénigre au niveau du continent africain, dire qu'elle ne s'attaque qu'aux faibles, parce qu'il est plus facile de s'attaquer à Omar el-Béchir que de s'attaquer à Tony Blair ou à George Bush. Donc si la Cour ne se saisit pas de ça, c'est clair que ça va conforter le camp de ce sentiment. Et comme des crimes de guerre ont été commis en Irak, des crimes de torture ont été commis en Irak, la Cour gagnerait en crédibilité à ouvrir une enquête justement sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je note avec beaucoup d'intérêt que des familles de soldats britanniques envisagent justement, oui, de poursuivre Tony Blair ou chez lui ou au niveau de la Cour pénale internationale.
Mais vous croyez vraiment qu'il y aura un jour un procès de Tony Blair devant la CPI?
Honnêtement, je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Compte tenu, vous savez, du poids des pays comme la Grande-Bretagne, a fortiori d'un pays comme les États-Unis qui n'a jamais signé le traité de Rome qui crée la Cour pénale internationale justement pour protéger des soldats.
18, ouais.
Je ne pense pas que Tony Blair ou George Bush même vont être jugés. D'ailleurs, l'ancien secrétaire d'État, lorsque la Belgique a voulu se saisir de lui au nom de la compétence universelle, les Belges ont dû reculer devant la menace insistante des États-Unis.
D'ailleurs, à propos de terrorisme, on parlera dans la deuxième partie de l'émission, après le flash de Boko Haram au Niger, hein, des attaques de Boko Haram. Là aussi, terrorisme multiforme.
Absolument, absolument, ouais. Absolument.
Donc, c'est dit qu'on va marquer une pause, écouter quelques nouvelles de ces dernières heures. Il sera sans doute question de l'Irak et du continent africain. Et on se retrouve dans quelques 3 minutes. À tout de suite donc.
Avec plaisir.
On retourne maintenant à 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invité, le journaliste Sédic Abba.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Avant de partir pour l'Afrique, Sédic, tout à l'heure, arrêtons-nous un instant en France. Revenons d'abord sur la mort samedi dernier, il y a juste une semaine, de l'ancien Premier ministre Michel Rocard, celui que l'on appelait le père de la deuxième gauche, dont se réclame aujourd'hui Manuel Valls, par exemple. Un hommage national lui a été rendu jeudi aux Invalides et quelques jours plus tôt, une cérémonie avait été aussi organisée dans la ville dont il a été le maire, Conflans-Sainte-Honorine, dans la banlieue parisienne. Reportage de Victoire Faure.
Sur cette photo en noir et blanc, un Michel Rocard âgé, le regard rieur. Des roses rouges bien sûr et puis quelques bougies. Devant l'hôtel de ville, Conflanais et élus locaux ont observé une minute de silence. Dans la foule, Odette Costagana, 85 ans, conscrite de l'ancien Premier ministre, se souvient d'un homme simple et accessible.
On était bien, c'était vraiment une personne formidable. Mais il se baladait en Conflans, hein. Pour ça il était sympa, oh non il était sympa.
Ici, là où le 21 octobre 1980, il annonçait sa candidature à l'élection présidentielle, le drapeau est en berne. Serge Morvan, préfet des Yvelines.
S'il y a un mot qui donne le sens de ce que fut la vie de Michel Rocard, c'est bien l'engagement. Michel Rocard, et je le crois, et je le pense sincèrement, un exemple de droiture, d'intelligence et d'ardeur. Il ne dissociait jamais son action de ses idées.
Une file se forme pour signer le registre de condoléances. Stylo à la main, Jean-Paul Huchon, directeur de cabinet de Michel Rocard, qui lui succéda à la mairie il y a 22 ans.
C'était un homme complet et c'était un dirigeant exceptionnel. Cet homme n'a jamais rien fait, ni dit, ni pensé de médiocre.
Partout, les habitants évoquent l'ancien maire de Conflans-Sainte-Honorine, aujourd'hui orpheline.
Revenons maintenant sur l'adoption au forceps sans vote de la loi sur la réforme du Code du travail par l'Assemblée nationale en vertu de l'article 49.3 critiqué par la CGT et FO notamment. Que trouve-t-on désormais dans ce texte, Abla Junaïdi?
Pour cette deuxième lecture à l'Assemblée, on revient presque à la version initiale du texte. L'article 2, qui fait primer l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, concentrait les critiques. Mais afin de calmer la colère, le gouvernement s'est contenté de faire voter des amendements pour réaffirmer le rôle des branches professionnelles sur les questions d'égalité homme-femme et de pénibilité. Ce qui veut dire qu'une entreprise ne pourra pas proposer moins que la branche en ces domaines. Si les 35 heures restent la durée légale, l'article 2 implique que les accords d'entreprise décideront en premier lieu de l'aménagement du temps de travail. Il sera ainsi possible de faire passer la durée moyenne hebdomadaire de travail à 46 heures maximum par un simple accord d'entreprise. Accord qui fixera aussi le taux de majoration des heures supplémentaires. Un licenciement économique pourra se justifier pour les petites entreprises par une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année précédente. Dans les entreprises de moins de 250 salariés où il n'y a pas de représentants syndicaux, la direction pourra enfin négocier avec des salariés mandatés par un syndicat.
Une commission parlementaire pointe des insuffisances dans le monde du renseignement face au terrorisme après les attentats de l'année dernière. Guillaume Deltaille.
Il y a un constat pour cette commission d'enquête. La France aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ceux qui l'attaquent. La commission veut donc tirer deux grandes leçons de ces attentats. Il faut tout d'abord, dit-elle, créer une véritable agence nationale de lutte contre le terrorisme, une agence interministérielle qui coordonnerait l'activité de toutes les agences de renseignement du pays. Elle analyserait la menace, proposerait un plan d'action et elle gérerait surtout une base de données sur le terrorisme commune à tous les services. Un outil qui fait aujourd'hui défaut aux forces de l'ordre, dit la Commission. Autre grand enseignement que ces députés veulent tirer, la nécessité de refondre le renseignement territorial, le renseignement de proximité qui peut détecter les premiers signes de radicalisation. La Commission préconise de fusionner les services de police et de gendarmerie et de créer une nouvelle direction générale du renseignement territorial au sein du ministère de l'Intérieur. Cela permettrait, dit-elle, d'assurer une continuité du traitement du renseignement sur l'ensemble du territoire français. Deux réformes essentielles aux yeux de la
commission, mais son rapporteur prévient, on a beau avoir les meilleurs services de renseignement, la meilleure organisation, ça n'empêche pas l'attentat d'Orlando en Floride.
Sédic Abba, dans le petit monde du football français, ce qui s'est passé jeudi soir à Marseille est historique. Vous le savez, vous aimez le foot. Une victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne dans une compétition officielle. Ce n'était pas arrivé depuis 1958, il était temps donc. 2-0 et une place en finale demain soir contre le Portugal. Alors sur l'ambiance marseillaise, là où a eu lieu ce match, à ce moment-là, écoutez le reportage de Stéphane Burgat.
À en perdre la voix, cette explosion de joie, c'est autant pour la qualification que pour ce signe indien enfin brisé face à la Mannschaft.
Ah, c'est génial. Quand on a connu 82, ça fait du bien, c'est une revanche, je suis ému. Maintenant, on écrit une nouvelle histoire.
La fanzone se vide en un temps record, les supporters se regroupent sur les grandes avenues, allument des fumigènes par dizaines dans un épais brouillard de couleurs, escaladent même une statue, rien n'est trop fou.
Au moins les Allemands, ils arrêteront de dire que c'est les plus forts du monde. Maintenant, c'est la France, les plus forts du monde.
Mais certains ont tout simplement du mal à réaliser.
Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien compris.
D'autres saluent le héros du soir, le pistolero Antoine Griezmann.
Griezmann, c'est l'année, c'est voilà, ballon d'or.
Mais sur le vieux port, bondé, coloré, mais plus sage que la fan zone, c'est le soulagement et beaucoup de sourires là aussi sur les visages.
On va pas s'enflammer, mais il y a plus personne qui nous fait peur maintenant.
Mais dans l'insouciance générale, les supporters en oublieraient presque la dernière marche, le Portugal de Cristiano Ronaldo.
Ouais, ben le Portugal, on n'a pas peur, on ne laissera pas.
Rendez-vous donc dimanche pour ce dernier acte France-Portugal et attention à cette Seleção portugaise, toujours en quête d'un premier sacre continental.
Alors c'est dit que qu'on aime ou pas le football, il est quand même amusant et confortant d'avoir une des ambiances pareilles après les mois que nous avons vécu avec les attentats.
Absolument.
Une respiration.
Absolument. C'est une bouffée, c'est une sacrée bouffée d'oxygène.
Une parenthèse peut-être, mais une parenthèse.
Dans le contexte de post-attentat, dans le contexte du débat sur la loi sécuritaire, dans le contexte de l'état d'urgence, dans le contexte de cette confrontation autour de la loi El Khomri, c'est clair que c'est une sorte, comme disent les marxistes, une sorte d'opium du peuple. Le football, en ce moment, ça rassemble tout le monde, ça fédère les sensibilités. Le pouvoir comme les syndicats, ça. Donc cet événement est un événement festif, un événement de plaisir. Et moi-même qui fus footballeur dans une autre vie, je ne fais aucune révélation à ce sujet. Je suis un excellent dribbleur, cher Pierre-Edouard, même si j'ai pas eu l'occasion de le dire. Et c'est clair que on a vécu hier un moment formidable. Et comme il a été dit par certains spectateurs, le sentiment que le cycle de la malédiction face à la Mannschaft a été brisé et la défaite de 82, cette défaite avec des figures historiques comme Marius Trésor, comme Didier Six, etc. Platini, etc. Il y a là quelque chose qui vient de se passer. Il y aura sans doute un avant et un après Marseille. Moi, je pense que le plus dur a été fait. Je ne veux pas m'aventurer dans
Justement, je ne veux pas jouer à Radio Foot International. C'est pas le lieu, mais vous avez un pronostic. Une idée un petit peu.
Je pense que le plus.
Attention à la dernière marche. Hein.
Pour moi, il est difficile de rater cette marche. Pour moi, le plus dur, c'était la Mannschaft. Et on n'a pas été démenti. D'ailleurs, vous avez vu la qualité des jeux des Allemands. Ils ont perdu le match dans la dignité. Mm-hmm. Ils n'ont pas été, même si le score est de 2-0, ils n'ont pas été écrasés. Ils ont perdu dans la dignité. Et l'équipe de France qu'on a vue hier, à mon avis, a ses chances, elle peut remporter la coupe, et si elle le remporte, c'est clair que ça va prolonger la fête et ça va faire oublier certains moments de tension qu'on a connus ces derniers temps.
Bien, on va parler de l'Afrique maintenant avec vous, Sédic. Alors, il faut que je précise que vous êtes l'auteur, les auditeurs les plus fidèles le savent, d'un certain nombre d'ouvrages publiés chez l'Harmattan. Le dernier en date s'intitule « Entretien avec Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel ». On en a beaucoup parlé dans cette émission, on a parlé des mathématiques, de l'enseignement en Afrique. Et avant, vous aviez écrit « La junte militaire et ses 10 affaires secrètes » 2010-2011, un livre qui vous a valu quelques soucis, hein, quelques écoutes. On parlait du canard enchaîné, ils savent ce que c'est que les écoutes, vous aussi. Et il y aura une suite ?
Ah oui, oui, non, il y aura une suite à ce livre, malgré ce que vous avez dit, et le prétexte d'ailleurs qui a été avancé, que je suis depuis que je suis passé à cette émission, c'est qu'on aurait écouté Sidi Kaba, parce que lui-même travaille pour les renseignements nigériens, parce que s'il a été capable d'obtenir ces informations de première main qui sont dans ce livre, c'est que peut-être qu'il a travaillé pour les renseignements du Niger, ce qui est pour moi une plaisanterie de mauvais goût, et j'invite ceux qui en ont la preuve à porter, s'ils ne le font pas, comme on le dit le jour du mariage, si celui qui veut, il se manifeste ou qu'il se taise à jamais. Donc moi, je les invite à en apporter la preuve. Mais fondamentalement, comme le livre que j'ai écrit, en dépit des problèmes qu'il m'a suscité, a connu un énorme succès. Les gens, les lecteurs m'ont dit, tu nous as resté sur notre faim. Je vais faire une suite à cet ouvrage-là. Et je pense que je vais profiter de cet été pour avancer véritablement dans la production de ce livre.
Donc les écoutes vont redoubler.
Qu'elles redoublent ou qu'elles ne redoublent pas. Je constate simplement que depuis que le livre est sorti en 2013, à ce jour, on m'a écouté et on n'a pas encore apporté la preuve de ce que j'ai commis une infraction à la loi. On n'a pas apporté la preuve de ce que j'ai fait quelque chose de délictueux. Je considère que tous ces efforts ont été totalement inutiles et que peut-être que les écoutes, les personnes qui ont été mobilisées pour m'écouter ou pour me surveiller auraient pu servir à quelque chose de beaucoup plus efficace, auraient pu être orientées vers des menaces qui sont, elles, réelles.
À suivre, donc.
À suivre, absolument. À suivre, je suis sûr que, comme d'habitude, à l'occasion de la sortie de ce livre, on aura l'occasion d'en
parler. Bien entendu, bien entendu. Alors, l'actualité africaine, on commence par la condamnation de deux anciens bourgmestres. Deux anciens bourgmestres rwandais ont été en effet condamnés mercredi par la justice française à la réclusion criminelle à perpétuité pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village. À l'issue de deux mois d'un procès qualifié d'historique par les parties devant la cour d'assises de Paris, Octavien Genzi et Tito Barahira ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour, je cite, une pratique massive et systématique d'exécution sommaire en application d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. Fin de citation, Raphaël Rennes.
Ils auraient pu aller plus loin, les jurés de la cour d'assises de Paris. Ils auraient pu assortir les peines de prison d'une période de sûreté. Mais cela n'avait pas été requis par le parquet général et la cour a suivi à la lettre les réquisitions du procureur Philippe Courroy. À la sortie de l'audience, les avocats de la défense ne masquent pas leur déception. Françoise Matt ne dit pas un mot et Philippe Meillac à peine plus.
Comme vous l'imaginez, je suis extrêmement déçu de cette décision. Pas forcément surpris, j'en dirai pas plus ce soir. Je crois qu'on peut s'attendre à un appel de la part de la défense.
Sur le visage des parties civiles se mêlent au contraire sourires de satisfaction et larmes d'émotion. L'avocat Gilles Paruel représente l'association de rescapés du génocide, Ibuka.
Aujourd'hui, on a pris la mesure, véritablement, de ce qu'ont été les événements, que ce soit à Karabando ou que ce soit dans d'autres lieux au Rwanda pendant ce printemps.
En 2014, l'ex-capitaine Pascal Simbikangwa avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle dans le premier procès organisé en France sur le génocide rwandais.
Alors partons pour le Rwanda, justement, c'est dit qu'avec la visite dans ce pays, dans le cadre d'une visite de plusieurs pays de la région, dont l'Ouganda et le Kenya, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Kigali mercredi, Stéphanie Aglietti.
Mon peuple connaît également la douleur d'un génocide. C'est un lien unique avec le Rwanda, a déclaré face à la presse Benjamin Netanyahou, qui n'a eu de cesse de multiplier les parallèles entre les deux pays. Le Premier ministre israélien a estimé qu'en raison de leur histoire tragique partagée, le Rwanda et Israël ont tiré des leçons similaires.
Dans les moments difficiles, nous devons être capables de nous défendre par nous-mêmes. Au Rwanda, l'ONU a échoué à maintenir la paix et bien plus que cela, ils ont pris la fuite. Aucun d'entre nous ne peut externaliser sa sécurité.
Montrer qu'Israël et le Rwanda se comprennent est le message qu'ont voulu faire passer les deux hommes. Paul Kagame.
Nos deux pays ont été habitués à faire des choses d'une certaine façon, en nous basant sur la principale ressource à notre disposition, notre peuple.
Ils ont également évoqué la question d'un possible accord controversé permettant à Israël de transférer vers le Rwanda des réfugiés africains présents sur son sol. Ce ne sont pas des demandeurs d'asile, s'est défendu Benjamin Netanyahou, mais des migrants économiques illégaux.
Le Rwanda, donc, dans une semaine d'actualité, deux choses, les condamnations notables de ces deux responsables de génocide à Paris, c'est à noter.
C'est absolument important et c'est la deuxième fois qu'un génocidaire vivant sur le sol français est condamné, puisque l'année dernière, Simbi Kangwa a été condamné à 25 ans. Cette fois, les deux génocidaires ont été présumés, ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, ont été condamnés à la perpétuité. Je pense que ça va changer le regard qui a été jusqu'ici porté par les organisations des droits de l'homme qui soupçonnaient la France de complaisance envers les génocidaires. Maintenant qu'il y a eu ces condamnations et le pôle génocide qui a été créé au tribunal de Paris, qui a centralisé, qui a compétence sur l'ensemble des questions de génocide qui a été créé, tout ça prouve qu'il y a une évolution de la position de la France envers les génocidaires qui sont réfugiés. Et à mon avis, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres procès, puisqu'il y a une douzaine d'autres dossiers qui sont en instruction. Et c'est une tendance qui va se poursuivre à la satisfaction des partis civils, notamment du comité des partis civils pour le Rwanda, qui est dirigé par un couple franco-rwandais qui est une sorte de chasseur de génocidaires, puisque les personnes qui sont jugées ont justement été repérées d'abord à Mayotte par le comité des partis civils pour le Rwanda, qui est dirigé par Alain Gauthier. Et ce travail-là se poursuit et il y aura sans doute d'autres condamnations de génocidaires.
Et la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Rwanda est évidemment à souligner. Elle est symbolique, elle est importante sur le plan politique et symbolique.
Absolument. D'ailleurs, puisqu'il y a une sorte d'histoire commune entre le Rwanda et Israël, les deux pays ont connu chacun un génocide et les deux pays ont essayé justement de sortir, de se reconstruire après ce génocide. Ça, je crois que ça a créé un lien de proximité assez fort et ça a permis aussi que Israël et le Rwanda signent des accords. En 2015, Israël a signé un accord avec le Rwanda, avec l'Ouganda, qui porte à la fois sur des livraisons d'armes. D'ailleurs, on a même reproché à Israël d'avoir livré des armes au régime génocidaire. Donc Israël
Je voudrais souligner cet aspect des choses. Il y a dans Le Monde de jeudi un article très intéressant de Piotr Smolar sur la question. Selon Amnesty International, Israël a livré des armes au Rwanda après même le début du génocide.
Absolument, c'est ce que dit cet article. Et il y a d'ailleurs une réflexion de la part des ONG, de la part de certains députés israéliens, pour éviter que cela se reproduise. Aujourd'hui, Israël livre des armes, parce que c'est un commerce rentable, à des pays en Afrique dont le respect des règles démocratiques, des règles éthiques est un peu discutable. Donc il y a tout ce débat. Mais il y a aussi le fait que, comme on l'a vu, la tournée de Benjamin Netanyahou, il y avait beaucoup plus de sociétés spécialisées dans les questions d'armement et dans les questions d'interception de sécurité, puisque Israël a une réelle expertise, notamment en matière de sécurité et d'interception d'écoute. Beaucoup de régimes africains, vous savez, sont friands. C'est pas parce que j'ai été écouté que je le dise, mais beaucoup de régimes africains sont friands de ces écoutes parce qu'ils pensent que les interceptions de sécurité leur permettent de mieux contrôler leurs opposants, de mieux protéger leur régime. Donc Israël a une réelle expertise et ça intéresse les pays. Mais moi, de mon point de vue, ce qui pourrait être bénéfique, puisque Netanyahou, au-delà du Rwanda, a fait une tournée africaine, c'est que Israël à d'autres expertises qui peuvent être mobilisées par le continent, notamment la question de l'agroalimentaire. Israël a la meilleure expertise en matière d'irrigation. Comme c'est un parti désertique, Israël a développé tout ce qui est agriculture irriguée. Et sur ces questions-là, par exemple, des pays comme ceux du Sahel peuvent être intéressés par l'expertise d'Israël, même si, comme on l'a vu, il y a toujours une ambiguïté dans la relation entre Israël et l'Afrique. Dans certains pays africains, on pense que le devoir de solidarité avec la cause palestinienne amène à ne pas avoir de relations avec Israël. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec l'Afrique de l'Est qui a une coopération avancée avec Israël. L'Afrique de l'Ouest, beaucoup moins. La coopération est timide, à part des pays comme le Sénégal qui ont une ambassade d'Israël. D'autres pays n'ont pas du tout d'échange diplomatique avec Israël.
Alors, direction New York, siège des Nations Unies, c'est dit que maintenant, où le constat que dresse l'ONU de la situation politique en République démocratique du Congo a de quoi inquiéter Anne Cantonner.
L'incertitude politique actuelle est susceptible d'entraîner une crise grave en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU met en garde à plusieurs reprises dans son rapport. Il s'inquiète du nombre croissant de violations des droits de l'homme et du fait que le dialogue national n'ait fait aucun progrès. Pour les opposants, un report de l'élection présidentielle semble de plus en plus probable et ils y voient un moyen de maintenir Joseph Kabila au pouvoir.
La tension monte et cela inquiète tellement les Nations Unies que la MONUSCO est en train de concevoir des plans d'urgence en cas de violence généralisée. La mission de l'ONU a constaté par exemple des lacunes dans certaines régions comme l'Ubangi dans le nord, le Kasaï ou la Lualaba dans le sud. Or, les Nations Unies considèrent qu'il existe un risque élevé de violence liée aux élections dans ces provinces. Alors des équipes de surveillance des conditions politiques vont être envoyées dans 5 nouveaux sites et puis la MONUSCO veut mettre en place des équipes mobiles. Ces équipes seraient basées à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi et elles pourraient partir pour 2 semaines dans les zones les plus sensibles. En attendant, la police de la MONUSCO, elle, intensifie déjà ses patrouilles dans plusieurs localités et notamment à Lubumbashi.
Du nouveau dans l'affaire des origines d'Ali Bongo et dans le conflit qu'il oppose à sa demi-sœur, Onaïda Meisha. Le tribunal de grande instance de Nantes, en France, a en effet désigné une juge d'instruction pour instruire la plainte de la demi-sœur du président gabonais qui affirme que l'acte de naissance du chef de l'État conservé donc à Nantes serait un faux. Selon ses détracteurs, Ali Bongo serait né au Biafra, des origines qui, selon la loi gabonaise, pourraient l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'août prochain, le mois prochain donc, Sébastien Nemeth, lundi.
À l'approche de la présidentielle gabonaise, la désignation d'une juge d'instruction vient mélanger calendrier judiciaire et politique. Marie-Thérèse Monchy-Dubuis devra notamment examiner le fameux acte de naissance d'Ali Bongo. Or, selon la partie civile, il pourrait s'agir d'un faux. Maître Éric Moutet espère que l'instruction pourra notamment expliquer comment et quand cet acte est arrivé à Nantes. Il espère une enquête rapide, rappelant avec humour que le tribunal se situe à côté du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, là où est conservé le document. Quant au volet politique de l'affaire, maître Éric Moutet attend une enquête indépendante.
Il n'est pas impossible que certaines pressions puissent s'imaginer, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux. On peut penser que le magistrat puisse avoir quelques conversations provoquées. Mais bon, j'espère que ça s'arrêtera là et j'espère que on aura une vraie enquête.
De son côté, l'avocate d'Ali Bongo décrit cette affaire comme une fiction. Maître Claude Dumont-Bégui se dit d'ailleurs sereine.
On utilise tous les arguments, les arguties présupposé de droit pour essayer de nuire au président de la République, donc ça n'a aucun effet.
Selon l'avocate, cet acte d'état civil a été transféré en France en 1960, puis à Nantes 5 ans plus tard. Il n'avait jamais été contesté dans le passé, donc selon elle, cette affaire n'a qu'un seul but, discréditer politiquement Ali Bongo.
Notre adresse électronique.
semaine.actu@rfi.fr.
Et un clin d'œil à quelques amis Facebook cette semaine. Un bonjour à Ulrich à Yaoundé, à Auster, à Abomé Calavi et à en vrac Djibril, Mahamat Moussa et Eric. Suite d'une semaine d'actualité, on va continuer avec vous à parler de l'actualité africaine. Drôle d'affaire cette histoire des origines d'Ali Bongo, une histoire qui traîne.
Ça mobilise la classe politique gabonaise depuis un certain temps, de va-et-vient, de rebondissement à rebondissement. Et ce que je constate, c'est que Ali Bongo fait face à deux fronts. Il y a d'abord le front intérieur, puisque à l'origine de cette plainte, c'est sa propre sœur. Ensuite, il y a le front extérieur, puisque ses opposants contestent sa prétention à être candidat à l'élection présidentielle du 27 août. Donc, les Gabonais sont mobilisés, sont focalisés sur ça, même si, pour ma part, je considère qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants que ça, des enjeux, parce que, pour ceux qui connaissent le Gabon, le rapport entre la situation de développement du Gabon aujourd'hui et les ressources pétrolières du Gabon, les ressources forestières du Gabon, sont sans commune mesure. Peut-être qu'il y a lieu de régler au plus vite cette question-là, qui me semble même un peu anecdotique, pour aller à des questions plus importantes, le développement du Gabon, le fait qu'une gabégie s'est installée dans le pays, le fait que les ressources du pays ne profitent pas davantage à tous les Gabonais, plutôt que de se focaliser sur une question qui rappelle à certains égards la question de l'ivoirité de Soubédié,
ou la question
de sinistre mémoire, la question de l'ivoirité, ou même la question de la congolité, puisque à un moment on a parlé du Congo, de la RDC. La question du fait que Kabila soit congolais ou pas aussi a été posée. Et puisque on parle du Congo, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le compte-rendu du rapport sur la situation politique au Congo-Kinshasa.
Un rapport très alarmant.
Très alarmant. Et ce qui me surprend, c'est le déni de la part du pouvoir congolais. Si vous avez suivi la réaction, on parle de néocolonialisme, on parle, parce que ça, c'est des arguments de facilité. On ne peut, d'ailleurs, qui sont des arguments totalement incohérents. Les mêmes dirigeants qui parlent aujourd'hui de néocolonialisme vont courir demain pour demander l'aide internationale en matière d'aide financière, vont courir pour demander l'arbitrage du Conseil de sécurité en prétendant que le Rwanda les a attaqués, etc. Donc, au lieu d'affronter ce qui est réel aujourd'hui, il y a une tension politique au Congo-Brazzaville. La condamnation de Moïse Katumbi, un des prétendants à 3 ans de prison qui se prépare à rentrer, les interdictions de manifestations, les sanctions américaines contre le chef de la police de Kinshasa, tout ça, ce sont des indicateurs de tensions politiques. Au lieu de reconnaître cela et d'aller à une solution, non, le pouvoir pense que ce rapport a été commandité. Il pense même que peut-être qu'il a été écrit par des opposants au régime. Et donc, ce déni, cette cécité politique, moi, m'interpelle et m'amène à redouter que demain, le Congo soit dans une situation de crise pré- ou post-électorale.
En un mot, pour conclure, Sedi Kaba, cette édition d'une semaine d'actualité, quelle est la situation au Niger aujourd'hui après l'attaque de Boko Haram qui, on le sait, a déplacé quelques 50 000 personnes
bien davantage. Quand on fait le nombre de personnes qui sont en situation de nécessité, c'est bien au-delà de 50 000 personnes. Sur le plan sécuritaire, je pense que la situation est sous contrôle.
Donc, vous rappelez que le Tchad est intervenu pour soutenir...
Le Tchad s'est associé au Niger pour conduire une opération dans le lit du lac Tchad. La force mixte est en train de monter en puissance. Sur le plan sécuritaire, en tout cas en ce qui concerne la partie nigérienne, la situation est totalement sous contrôle. Mais le revers pourrait venir du Nigeria, parce que sur la frontière avec le Nigeria, l'armée du Nigeria n'est pas présente. Et ce qui amène les gens de Boko Haram à pouvoir opérer au Niger et à se replier au Nigeria. Donc, il faut que ce versant-là soit protégé pour que la situation soit totalement sous contrôle. La bonne nouvelle, c'est que la Komadougou Yobé, qui est ce cours d'eau qui sépare le Niger et le Nigeria, est revenue. Et ça freine la mobilité des gens de Boko Haram. Ils ne pourront pas frapper au Niger et se replier.
Merci, Sedi Kaba, d'être venu commenter l'actualité.
C'est toujours un immense plaisir de venir à une semaine d'actualité.
Et on se retrouve à la rentrée. Peut-être parlera-t-on déjà de votre prochain livre. Mais en tout cas, je souhaite de bonnes vacances.
Merci beaucoup. Et à vous aussi, Pierre-Edouard, et à tous vos auditeurs.
Merci et à bientôt. Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées avec Frédéric Worms, directeur du département de philo de Normal Sup. Nous parlerons de la philosophie et de la violence. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. 15h10, temps universel. Je vous retrouve aussi vendredi prochain pour notre émission estivale avec les plaisirs du journalisme, avec Claude Angéli du Canard Enchaîné. Je vous retrouve aussi samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées et dans un instant un nouveau journal sur RFI.